j'ai plus ce besoin d'aller me nourrir tellement ailleurs, puisque je suis tellement reliée ici, et que je n'ai même plus peur. C'est-à-dire qu'on parlait de la mort, on parlait de perdre quelqu'un, de perdre un amour, ou d'avoir un changement brutal dans sa vie. Et ben, ce lien si fort fait que l'écosystème se réorganise, moi y compris. C'est-à-dire que l'amour, justement, puisque l'amour est multiplié par ce vivant intense autour, que ouais, les choses sont, il y a quelque chose de la pas de la sécurité, parce que c'est pas tellement le mot, mais en tout cas d'une sorte de
résilience
et puis d'assurance aussi. Ce nomadisme, moi j'adore, parce que je disais qu'aujourd'hui je ne bouge plus, donc je voyage dans mon propre paysage. Donc les vaches me font découvrir par les chemins qu'elles ouvrent, le pistage. On parlait de pistage hier avec Baptiste Morisot, mais je suis leur trace. Donc je suis amenée, moi, à voyager dans ces milieux qu'elles ouvrent, que je découvre comme elles le découvrent, mais on découvre en même temps. Mais elle m'ouvre la voie, parce que souvent c'est impénétrable. C'est des ronciers pour la plupart du temps, avec une strate émergente qui sort des ronciers. Mais enfin, en tout cas, la strate basse, elle est souvent extrêmement difficile à pénétrer, où il faudrait que je prenne des outils.
Une des choses que j'adore faire, c'est tisser des liens entre les personnes si inspirantes que je rencontre. Et il y a un lien entre le dernier épisode et celui-ci, puisque Peggy Reboul a réalisé une communication animale avec Jonquille, l'une des vaches d'Astrid. Astrid est mon amie. Elle m'inspire énormément dans les liens qu'elle voit et pratique entre élevage et paysage, entre ancrage et circulation. Tout cela avec beaucoup d'authenticité. Pourtant, elle était au départ un peu réticente à faire cet épisode, car elle ne se sent pas tout à fait légitime. Je lui ai proposé de considérer cet enregistrement comme un simple partage d'expérience et non comme un modèle à suivre, ce qui est de toute façon mon positionnement avec ce podcast. Merci Astrid d'avoir accepté d'enregistrer. Si vous vous questionnez sur la place d'un petit troupeau dans un paysage, cet épisode devrait nourrir votre réflexion. Pour accéder aux ressources en lien avec la thématique de cet épisode, je vous invite à vous inscrire à ma lettre, le mycélien. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Au passage, un grand merci aux 5 premières personnes qui m'ont soutenue sur Tipeee. Cela m'encourage à continuer. Très belle écoute. Je suis très nourrie par la manière dont tu pratiques l'agriculture. Et j'avais envie de citer une citation que tu partages dans un épisode du podcast Lumière Paysanne que Charlotte et Ilan ont fait avec toi, de la promo 2 de l'école d'agroécologie voyageuse, ont fait avec toi il y a déjà presque 2 ans. Tu dis « Les animaux ont aussi besoin de varier de paysages, c'est précieux de changer de vue régulièrement ». Et ça m'avait vraiment connecté à la fois à l'importance pour un animal, même domestique, de se réensauvager quelque part en changeant d'endroit, en se connectant à la diversité des écosystèmes et au cheminement, en fait. Et du coup, moi, j'aimerais qu'on parle de la place du sauvage à la ferme et de ton lien à l'ancrage et au nomadisme, à cet équilibre, parce que tu es très ancré dans ton territoire, dans ta ferme aujourd'hui. Et en même temps, tu chemines dans ton paysage et c'est ce cheminement qui le régénère aussi. Et du coup, j'avais envie de te demander, est-ce que tu peux nous parler de ton lien au vivant aujourd'hui ? Comment tu décrirais ton lien au vivant dans ta ferme ? Pour une première question.
Je le décrirais comme un lien tendu, un lien fort déjà, par l'observation, donc un lien extrêmement ritualisé du quotidien, oui, de ce soin quotidien qui est un soin qui crée le lien finalement, à la fois par l'observation, à la fois par des gestes que l'on peut faire sur les animaux, Donc là, c'est plutôt sur les animaux domestiques, même si on a une pratique ici d'essayer, alors avec beaucoup de modestie, d'essayer de leur redonner leur essence première qui serait une essence un peu plus sauvage qu'ils n'ont pu l'être par le passé, puisque c'est des animaux qu'on a récupérés de fermes autres. Donc on essaye ici effectivement de leur redonner la place dans le paysage pour qu'ils retrouvent eux-mêmes leur sens premier, spontané, en lien eux-mêmes avec le vivant et le sauvage. Et pour mon lien à moi, alors je ne sais pas si je suis vraiment claire, mais je dirais que c'est un lien du rituel, de l'observation, du regard mutuel. Oui, finalement, de jeu de regard. C'est peut-être le lien du regard. On regarde mutuellement, on apprend à se connaître par le regard, par l'observation. L'observation de ce qu'ils peuvent manger, l'observation du désir de bouger, justement, parce que c'est souvent eux qui donnent le ton aussi dans le changement de décor, de paysage, de vue. C'est souvent eux qui disent, à un moment donné, tu le sens, ils ont envie de passer encore outre la clôture, d'aller plus loin. Et c'est là où, ben moi, souvent, je prends les devants, bien évidemment, mais parfois, j'ai juste à les voir qui ont besoin d'aller ailleurs et on sent qu'ils ont exploré l'espace qu'ils devaient explorer, qu'il c'était le temps maintenant de changer de lieu, de vue, de nourriture aussi, puisqu'ils glanent beaucoup.
J'avais envie de vous partager quelques morceaux d'un échange entre Astrid et les étudiants et étudiantes de l'école d'agroécologie voyageuse en juin dernier. Nous étions au milieu des vaches. L'ambiance est différente. Les partages n'ont pas tout à fait la même texture.
Et puis, dans cette histoire de relation, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai jamais eu de vaches de ma vie. J'ai jamais été dans un élevage ou une ferme. Donc, j'ai pas appris. J'apprends vraiment avec elles. Et c'est ce que je disais. J'adore ce côté, justement, l'intuition. Quand le moment est là pour les toucher, il est là. Je me donnais pas d'obligation avant. Quand je suis prête à, on y va. Et j'adore ce rythme finalement de l'ignorance. Elle m'emmène sur des chemins. On coévolue, mais moi j'apprends grâce à elle. Je ne suis pas du tout vachère, je ne me considère pas pour l'instant. Mais maintenant, je peux, si je dois faire une piqûre en plein champ, je peux le faire. Ce lien, c'est un lien aussi qui est un lien du tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un lien physique. Le regard, c'est un lien de la pensée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des animaux, j'entends plutôt domestiques, là je ne parle pas du sauvage qui est encore autre chose, mais ces animaux, ils font partie totalement, comme nos enfants, comme en tout cas pour moi, de notre espace mental. Donc c'est une pensée qui est en permanence là, d'une manière ou d'une autre. Il y avait cet orage cette nuit, effectivement on a été réveillé par cet orage extrêmement fort. Je me suis pas dit comment les enfants réagissent, puisqu'ils sont à côté en général ou dans la maison, mais plutôt comment les animaux se sont camouflés ou pas, comment ils se sont protégés, est-ce qu'ils ont eu peur, pas peur, est-ce qu'une branche leur est tombée dessus, etc. Donc c'est plutôt, oui, c'est un lien mental extrêmement puissant, fort, qui fait qu'on est ultra connecté. Et c'est ça qui est intéressant dans ce lien au vivant que j'éprouve aujourd'hui, c'est cette connexion totale, permanente, parfois extrême, puisque je me sens tellement reliée que j'ai plus besoin même d'aller à la rencontre. Je dis ça avec beaucoup de... parce que je rencontre ici beaucoup, beaucoup, et j'en ai besoin, mais j'ai plus ce besoin d'aller me nourrir tellement ailleurs, puisque je me sens tellement reliée ici. Je suis extrêmement ancrée, reliée, et que oui, je n'ai même plus peur. C'est-à-dire qu'on parlait de la mort, on parlait de perdre quelqu'un, de perdre un amour, ou d'avoir un changement brutal dans sa vie. Et ben, ce lien si fort fait que l'écosystème se réorganise, moi y compris. C'est-à-dire que l'amour, justement, puisque l'amour est multiplié par ce vivant intense autour, que ouais, les choses sont... Il y a quelque chose de la... Pas de la sécurité, parce que c'est pas tellement le mot, mais en tout cas d'une sorte de...
Résilience.
Résilience et puis d'assurance aussi. D'assurance, de quelque chose de très fort qui se passe là, dans la confiance. Même si ça peut y avoir des grandes tristesses, des grands malheurs, mais il y a quelque chose de l'ordre de la... d'autres choses qui se jouent là, qui est au-delà de tout ça, qui est de faire partie du cycle, ou des cycles même, puisq'ils sont nombreux. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question.
Si, tout à fait. Alors, il y a eu plein de choses qui me sont venues en t'écoutant. Donc, tu élèves 6 bovins de race Salers.
Aubrac.
Aubrac, n'importe quoi.
Elles sont belles, les Salers aussi.
Oui, les Aubracs sont très belles. Et une quinzaine de moutons.
Oui, il y en a 22 là aujourd'hui, avec les agnelles de l'année.
Voilà. Et des poules partagées avec d'autres personnes dans les fermes de Ségur.
Et des équidés, ça c'est important pour les rotations et la succession animale.
Oui, voilà, exactement, tout à fait. Donc tu as démarré avec un petit élevage qui grandit au rythme des naissances, tout comme les dizaines d'arbres que tu plantes. Alors, tu en as planté beaucoup au départ, mais tu continues de planter. Et finalement, tout ça, ça évolue petit à petit, tout comme toi tu apprends. Et donc toi aussi, tu chemines personnellement dans ta ferme et aussi à travers le paysage. Et les animaux t'aident aussi à... Enfin, ce lien que tu as à tes animaux te permet de découvrir des nouveaux endroits, d'ouvrir des nouveaux endroits. Donc tu es très ancré et en même temps, nomade dans ton paysage, si on peut dire. Mmh. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça, de comment ça s'est mis en place, ça, en fait? Et qu'est-ce qui se passe concrètement dans le paysage? Comment il évolue? Est-ce qu'il y a des zones qui étaient sauvages qui ne le sont plus parce qu'ils sont ouverts par des animaux d'élevage? Tu vois?
Oui, alors ça, c'est vrai que la notion du petit pour aller vers quelque chose de plus grand était essentielle pour moi dans cette question de la découverte à la fois des espèces qu'on a invitées à venir vivre avec nous ici sur la ferme et aussi pour donc leur découverte et aussi pour mon apprentissage personnel puisque je ne suis pas du tout issue du milieu agricole et que je n'ai jamais vécu en contact avec les équidés ici, mais pas du tout avec les ovins et les bovins qui sont les espèces que j'ai choisies aujourd'hui pour régénérer. C'était beaucoup la question de la régénération. Je sentais que ce paysage avait besoin d'animaux. Après, il a besoin probablement de plus d'animaux. On pourra revenir sur l'échelle des choses. Mais voilà, il y avait un besoin et je trouvais bien de commencer à amorcer ce sentiment, cette intuition que j'avais de l'animal domestique dans ce paysage. À leur rencontre, surtout des vaches, mais on pourra revenir sur les ovins qui sont plus prairiales pour moi et qui apportent d'autres choses dans la régénération et dans les déplacements, justement dans le nomadisme. Mais en tout cas, pour les bovins, ce qui m'a frappé et ce qui m'a complètement émerveillée, mais ce que j'ai pu dire déjà dans des conversations qu'on a pu avoir, c'est l'ouverture effectivement des milieux. À grande échelle, je me souviens qu'on parlait des buffles, ou plutôt des bisons, pardon, des cheptels de bisons qui ouvraient les grands, grands paysages aux États-Unis, en Amérique. Et bien là, c'est pareil, finalement, on vit la même chose à petite échelle, mais les troupeaux, le petit troupeau, effectivement, aujourd'hui, de 6 vaches, ouvrent, dessinent des cheminements dans les lisières, dans les boisements, dans les forêts, qui était aujourd'hui habitée uniquement par une faune sauvage. Une faune et puis une flore, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est la flore. Donc c'est bien sûr la cohabitation avec la faune sauvage que je peux voir, observer très tôt le matin, les cervidés avec les vaches, très régulièrement, les renards. Enfin, je vois que tout ça, il y a une relation. Je ne sais pas très bien de quel ordre elle est, comment ils coagissent ensemble. Mais en tout cas, je le vois. Il y a souvent des partenaires avec les vaches dans le troupeau quand j'arrive. Mais ce que je vois aussi, c'est que les vaches vont glaner et vont se nourrir beaucoup de feuillage et viennent compléter leur bol alimentaire. Donc c'est à plusieurs titres, c'est passionnant. Ce nomadisme, moi j'adore parce que je disais qu'aujourd'hui je ne bouge plus, donc je voyage dans mon propre paysage. Donc les vaches me font me font découvrir par les chemins qu'elles ouvrent. Le pistage, on parlait de pistage hier avec Baptiste Morisot, mais je fais réellement, je suis leur trace. Donc je suis amenée, moi, à voyager dans ces milieux qu'elles ouvrent, que je découvre comme elles le découvrent, mais on découvre en même temps. Mais elle m'ouvre la voie, parce que souvent c'est impénétrable. C'est des ronciers pour la plupart du temps, avec une strate émergente qui sort des ronciers. Mais enfin, en tout cas, la strate basse, elle est souvent extrêmement difficile à pénétrer. Il faudrait que je prenne des outils. Et là, elles vont ouvrir et vont me permettre de regarder de plus près ces milieux que j'avais pas l'habitude, dans lesquels je n'avais pas l'habitude de pénétrer. Et c'est un jeu de cache-cache régulier qui fait que c'est non seulement c'est amusant, parce que je les perds régulièrement et je vais le matin, je ne sais pas très bien où elles sont, bien que je m'aperçois quand même qu'elles ont beaucoup de rituels. Je parle beaucoup de rituels, moi, le rituel me passionne, mon rituel à moi, mais le rituel aussi animal. Et donc, je m'aperçois que quand elles sont dans une zone forestière choisie, pendant quelques jours, elles vont quand même vivre toujours au même endroit la nuit, avec des positionnements. Chaque chambre est habitée par une des vaches. Enfin, tout ça est extrêmement bien ritualisé chez elles, positionné, des positionnements qu'on va retrouver dans la forêt, un peu au fil des jours, un peu identiques. Donc ça, c'est pour les vaches. Ça, c'est vraiment une dimension à grande échelle sur des espaces plutôt forestiers. De toutes les façons, elles sont toujours en relation avec la prairie et la lisière ou la forêt. C'est ça, c'est qu'elles me montrent ce qu'elles aiment, comme ça elles sont en contact avec les différents types de fourrages, différents bosquets, donc je vois très très bien, je commence à comprendre assez bien leur bol alimentaire et vers quoi, en termes de feuillage, de ligneux, même d'herbacées, vers quoi elles vont. J'adore l'idée que les parcelles, effectivement vous êtes face à une parcelle qui est pas, je sais pas comment tu la définirais Hervé, mais il y a beaucoup de rumex, il y a du chardon, on peut pas dire que ça soit exemplaire pour elles, mais elles glanent. Et ça, j'adore. Ici, elles glanent. Donc, elles ne sont pas dans un pâturage dynamique où elles vont avancer en mangeant et elles ne lèvent pas la tête dans ces cas-là, parce que tout est bon, là, par exemple, si elles sont là. Ici, elles passent leur vie à bouger, à glaner, à aller chercher, à suivre aussi ce qu'on leur propose. Et ça me va bien. On n'est pas dans une histoire de performance. Je pense que malgré tout, elles enrichissent, bon c'est pas exemplaire parce qu'il faudra probablement un plus grand troupeau, mais il va s'agrandir parce que c'est l'idée, au fil des années, parce qu'on va, le village se passe ici, mais je pense qu'elles donnent quand même l'information, et je le sens, elles ont déjà donné l'information à ce lieu qu'il y avait une présence animale, aux lisières, voilà. Je sais aussi qu'il faut planter encore ici, même si vous voyez, on n'a pas commencé du tout les plantations. Toute cette coexistence d'arbres, de parties arborées, d'ombre, justement de bols alimentaires et de nourriture fourragère, eh bien, il va falloir compléter ce paysage. Mais déjà qu'elles arrivent en premier, elles vont pouvoir nous donner les indications et les bons endroits pour planter, et peut-être se fier à elles pour les futures plantations. Plutôt que de se fier à la topographie aussi. Mais c'est peut-être elles qui vont nous donner les indications de selon leur circulation. Je les trouve assez forestières, les vaches. Pour les moutons, c'est différent. C'est des animaux plutôt de prairie. Ils vont aller glaner quelques feuillages, mais c'est plus, en tout cas la race que j'ai ici, Shropshire, qui est une race anglaise. Je trouve que c'est plutôt un animal prairial qui va de temps en temps aller chercher du feuillage, mais ne va pas avoir cette action du fait aussi de leur gabarit, qui est, même si elles sont grosses, qui est moindre. Et elles ne vont pas aller s'en mêler. La ronce, par exemple, va leur faire plutôt peur. Elles ne vont pas pénétrer les ronciers. Donc elles n'ont pas la même force de frappe, pas la même façon de se déplacer. Ce qui m'amuse avec les brebis, c'est l'idée d'un pâturage libre et d'aller en compagnie de Chin, donc la jeune chienne de troupeau
qui est avec nous,
voyager vraiment dans le paysage. C'est-à-dire qu'on va partir en, en transhumance, dans notre propre paysage. Ça, j'adore l'idée de ne pas forcément aller très loin, ouais, mais de se dire qu'on part à la dérive. C'est une petite aventure d'une journée, ouais, peut-être, mais qu'on part tous ensemble et qu'on va à la dérive dans ce paysage et qu'on découvre ensemble des...
Donc, tu as à la fois les rituels et le renouveau permanent, enfin la découverte. Mm. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi les rituels te passionnent ?
Ah ben, je trouve que c'est assez passionnant de savoir, parce que le rituel met en place... avoir un rituel, c'est avoir un besoin en général. Donc, ça met en place un équilibre. Je pense qu'il met en place un rituel, un équilibre, en tout cas chez moi, chez les vaches qui sont assez rituelles, assez dans le rituel. Les moutons aussi, ils se déplacent le matin, ils sont là, à midi, ils sont là, à 8h, ils vont être, à 20h, ils vont être dans un autre endroit. Donc, ils ont tout un rituel à la fois de pâturage, à la fois ils ruminent à des heures précises. Donc, leurs vies sont extrêmement ritualisées. Et moi, je sais que j'en ai besoin. Donc, finalement, je me rapproche aussi de leur... de leur façon de vivre, qui est une façon d'équilibrer le corps, d'équilibrer l'esprit, enfin, en tout cas pour moi. C'est rassurant, c'est presque le rituel est presque spirituel. Mm. Une forme de spiritualité, en tout cas chez moi. Chez les animaux, je ne sais pas, mais...
Ouais, tu disais aussi que les vaches glanent dans le paysage, elles font leur marche, elles ne sont pas en pâturage tournant dynamique. Ultra dynamique en tout cas. Enfin, c'est pas dynamique, c'est font du pâturage tournant, mais qui est pas dynamique. Parce que tu donnais cette image dans une vidéo qu'on a faite, dont je mettrai le lien dans la description de l'épisode, où tu dis elles lèvent pas la tête en pâturage tournant dynamique, elles sont. Toi, elles sont plus en découverte et elles ont plus de capacité aussi à s'auto-médiquer. Par rapport à un élevage classique, conventionnel, elles ont moins besoin de l'homme, peut-être, parce qu'elles sont plus en autonomie. Elles ont un peu leur rituel. Elles n'ont pas besoin de toi en permanence pour être nourries, puisqu'elles se nourrissent elles-mêmes. Et donc, est-ce que tu dirais qu'elles sont un peu plus sauvages que des... Je ne sais pas, un troupeau de limousins
bovins, les vaches, pour les vaches. Alors, les vaches, moi, j'observe beaucoup. C'est ce que je disais dans la vidéo que tu as pu faire, j'interviens quand il y a besoin. Bon. Mais c'est vrai qu'elles s'auto-gèrent. Elles sont qu'à l'herbe, au feuillage. J'apporte du sel, quelques besoins minéraux dont je sais qu'elles ont besoin, qu'elles ne trouvent pas ici sur nos sols, comme le sélénium. Après, oui, j'ai l'impression qu'en tout cas, elles retrouvent une forme d'instinct, d'aller chercher peut-être ce dont elles ont besoin. J'ai peut-être pas non plus assez de recul, j'ai que 6 vaches, je regarde et je pense que la vache est plus rustique, c'est une vache mixte, l'Aubrac, entre les viandes, et je pense qu'elle est plus rustique par exemple qu'un troupeau d'ovins, où là je suis beaucoup dans l'apport de compléments, pas de compléments alimentaires, mais de plantes, de ce qu'on appellerait la prévention ou la prophylaxie. Pour faire en sorte que les moutons aient un équilibre. Je sais qu'ils sont plus fragiles, donc qu'ils trouvent un équilibre, en tout cas, ici, entre la prairie, leur propre immunité, et puis ce que je peux, moi, leur apporter avant d'avoir à intervenir le moins possible, justement, soit avec des antibiotiques, parce qu'il y a une urgence, donc beaucoup de prévention. Ce que j'aime, justement, oui, sur les vaches, c'est que j'ai le sentiment par rapport aux ovins où il y a quand même pas mal de soins en prévention, de soins préventifs, que la vache est plus rustique et plus adaptée au réensauvagement.
Ouais.
Peut-être qu'on trouvera un équilibre avec les ovins, mais aujourd'hui je m'occupe quand même beaucoup des ovins. C'est une race lourde, il peut y avoir des problèmes de pattes, il peut y avoir des problèmes, et puis du fait que j'en ai plus. Mais quand même, les moutons sont assez sensibles à pas mal de choses. Donc peut-être que l'équilibre immunitaire va arriver. Hein, et ils vont réellement s'acclimater ici à Ségur avec une force de rusticité dans l'avenir. Mais pour l'instant, c'est encore pas mal d'accompagnement. Peut-être que les générations à venir sont de plus en plus rustiques, c'est ce que je souhaite. mais j'ai l'impression que les vaches, ne serait-ce que par leur gabarit, quand je les vois, j'ai l'impression qu'elles pourraient traverser les siècles et qu'elles ont beaucoup moins besoin de nous. D'ailleurs, elles veulent en plein champ. Pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Les moutons, j'ai l'impression d'intervenir beaucoup, quand même. Donc oui, les vaches, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est très agréable. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, en tout cas que moi je ne maîtrise pas parce que, par manque de connaissances, probablement, mais aussi parce que voilà, elles sont tellement... Et puis elles sont en plein champ, donc on a très peu, nous, de façons, bien que j'ai une proximité maintenant et que je peux intervenir, faire une piqûre si besoin ou un petit soin, j'ai très peu de moyens ici d'intervenir très rapidement. Donc s'il y a un vrai problème, de toutes les façons, ça complique.
Avant de continuer, je voulais rappeler, j'ai oublié de le dire au début, que je vous renvoie à un épisode qu'on a fait avec l'EAV sur le thème du bon sens paysan et de qu'est-ce qu'être paysan ou paysanne aujourd'hui, dans lequel tu exprimais que tu as du mal à te dire paysanne totalement et que tu es une toute jeune paysanne et donc tu avais un peu de réticence aussi à faire cet enregistrement parce que tu n'as pas envie que ton modèle soit considéré comme un modèle. Tu n'as pas envie que ce que tu fais soit considéré comme un modèle. Et voilà, j'avais envie de partager ça là, que c'est vraiment un échange qui peut nourrir d'autres personnes, mais ce n'est pas un modèle ce que tu fais et tu te dis ignorante. Mm-mm. Voilà, je voulais le repartager parce que, et je te remercie d'avoir quand même accepté d'enregistrer.
Oui, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec la diffusion de... Parce que je ne sais pas, je cherche, je ne sais même pas ce que je fabrique réellement. Je sais que je ne peux plus vivre sans les animaux dans ce paysage. Je sais que ce paysage en a besoin. Je sais que, que j'aime les voir. Je sais que ça apporte beaucoup, beaucoup de choses. Je sais que les sols s'améliorent. Je sais que j'ai ma place. Je suis bien là. Je le sens. Mais après, pour l'instant, il n'y a pas de performance. On va abattre notre première vache l'année prochaine, oui. Notre bœuf l'année prochaine. Mmh. Pour moi, c'est une vraie première. Donc, pour l'instant, même en termes d'économie, ce ne sont pas des économies. Le troupeau n'est pas une économie aujourd'hui. Ouais. C'est une richesse pour la biodiversité, pour le paysage, mais ce n'est pas une richesse encore matérielle, économique. Ça le deviendra peut-être. Hein, je ne suis pas du tout contre. Et au fil des années, nous agrandissons. Donc, ça le devient petit à petit. Mais... ça le deviendra, mais voilà, donc pas de modèle, ça c'est sûr, parce que je n'ai même pas un modèle voisin que je calquerai moi-même. C'est-à-dire que je ne me dis pas à cette ferme, je vais faire exactement ça. Parce que je sais que, voilà, tant que je n'ai pas fait les choses, je ne peux pas me calquer sur un modèle où je peux avoir des inspirations qui m'intéressent, mais même ça, je fais sans, donc je tâtonne, et puis le projet s'organise de manière assez organique autour de ce qui peut se passer de manière assez spontanée. Donc j'ai même pas un plan, un design global, même ça je n'arrive pas à le réaliser, je n'ai même pas... Les choses se dessinent au fil de l'eau, au fil de ma petite connaissance, et au fil de l'agrandissement de mes troupeaux. Donc il y a quelque chose de très organique qui se joue ici, qui n'est même pas diffusable, j'allais dire.
C'est ce qui fait que c'est unique.
Oui, et que chaque ferme, je pense, est assez unique.
Ouais. Et chacun peut aller prendre, glaner ce qu'il a envie de prendre dans une ferme et faire sa propre tambouille.
Exactement. Après, je suis quand même pour l'échange des expériences. Ça, c'est des observations partagées. C'est pour ça qu'on a créé un petit groupe. J'espère que je pourrais faire ça aussi sur les vaches. Un petit groupe de jeunes éleveurs, de petits troupeaux au vin. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on se pose beaucoup de questions, bien évidemment. Il y a dans l'idée de l'ignorance, c'est un mot que j'aime bien parce que ça et j'en ai un peu parlé avec vous tous lors de votre venue avec la promotion de 2023, c'est que, oui, l'ignorance pousse à une forme de curiosité insatiable. Donc, on est toujours en éveil et c'est ça qui est génial. Donc, ce petit groupe d'ovins, on va se réunir deux fois par an. On n'a pas forcément la même race de troupeau, mais on se pose beaucoup de questions. Toutes ces questions, on peut les partager. Ça, je trouve ça très pertinent. J'aimerais bien avoir la même chose avec les vaches. Bon, je n'ai pas autour de moi vraiment d'éleveurs ou de jeunes éleveurs qui ont la même dynamique. Mais voilà, je suis preneuse d'échanges.
Je ne peux plus imaginer ce paysage sans elle et sans les autres, bien évidemment, mais j'adore ça.
Il t'a fallu combien de temps pour te faire accepter dans le troupeau ?
Alors, ça s'est passé, c'était avant, je restais quand même assez loin. Et puis, il se trouve que Jonky a eu un problème de... elle a dû glisser, et donc c'était... pas un déhanchement, mais à une liaison. On n'a pas su très bien la situer, mais boitait pas mal. Et ben, à un moment donné, je me suis dit, ben voilà, je vais aller la masser. Et là, je me suis rendu compte qu'elle se laissait totalement faire, qu'elle aimait ça. Et donc voilà, et donc ça a commencé vraiment, ça a déclenché chez moi l'envie de le faire. Et puis la confiance que je pouvais m'allonger, que je pouvais les caresser, qu'elles aimaient ça, qu'elles y répondaient. Le bélier, c'est pareil, je les ai beaucoup brossés aussi à contre-poil. Ils adorent se faire tripoter. C'est moins le cas des brebis. Vous verrez, c'est une relation beaucoup plus distante, les brebis. Moi, je les manipule que s'il y a besoin. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas un quotidien, on n'a pas de lait, on n'a pas de, donc, enfin, pas de lait, on n'a pas une production laitière. Donc, je n'ai pas une relation, je ne les manipule pas. Si elle ne veut pas se laisser toucher, je ne touche pas. Je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin que ce soit mes toutous.
J'aimerais te partager un extrait des Diplomates de Baptiste Morisot et voir un peu ce que ça fait, est-ce que ça fait écho en toi. Être par soi-même consiste à être autonome au sens d'être bien relié à toute la communauté biotique, c'est-à-dire de manière plurielle, résiliente, viable, de manière à ne pas dépendre absolument d'un exploitant qui sélectionne et protège, ou d'une ressource versatile ou d'une niche irrégulière. La seule indépendance réelle est une interdépendance équilibrée, une interdépendance qui libère d'une dépendance focalisée sur un seul paramètre. Pour traduire ce « par soi-même » dans la langue française, on peut de nouveau mobiliser le terme désuet « feral » qui vient du latin « ferus ferasticus ». Feral, fier, farouche, qui résiste au fait d'être sélectionné à l'avantage d'une autre espèce et de subir des pressions de sélection simplifiées à outrance par soi-même. C'est un synonyme de sauvage, mais un mot sans histoire, un mot neuf, pour ne pas charrier à chaque usage toutes les connotations sédimentées dans la critique civilisée de la sauvagerie et dans la sacralisation romantique du wild. Moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est par rapport à ça, est-ce qu'il y a des choses qui te parlent dans la vision que tu as du sauvage dans ta ferme ?
C'est ce que je... Alors,
que ce soit la part de sauvage dans les animaux domestiqués, entre guillemets, ou le sauvage que tu laisses totalement libre et qui est sauvage vraiment, quoi.
Oui, alors j'allais dire le sauvage, la part du sauvage, elle est là. J'ai moins de relations. On est en relation, je sais que c'est extrêmement vivant. Je la vois, cette trame, je les vois se déplacer, je vois les corridors, je vois tout ça, les passages, je les regarde, je les observe, je les ai notés, je sais où les animaux vivent. Je leur laisse leur part et ils sont les bienvenus. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est comment les animaux domestiques retrouvent ce lien dont parle Baptiste Morisot, ce lien relié, comment il se relie, comment les animaux, c'est-à-dire les habitants des lieux, se relient au sauvage. Enfin, c'est ça qui nous intéresse ici, puisque le sauvage, il est déjà relié, il est déjà vivant, il est déjà diversifié, il se mélange, enfin, on n'a pas besoin de lui apprendre quoi que ce soit, et on ne peut que constater leur présence ici, et les accueillir. Pour ce qui est de la part domestique, c'est ça qui est intéressant, c'est comment ces animaux, je parle plutôt des vaches, parce qu'encore une fois, les moutons, j'aimerais bien, mais on en est encore loin, parce qu'il faudrait pouvoir vraiment vivre en milieu forestier avec eux pendant un certain nombre de temps pour qu'ils puissent peut-être se relier. Mais pour les vaches, je constate vraiment ce lien qui se fait ici, si on leur donne la possibilité de se relier, progressivement elles vont le faire, et ça va leur donner les capacités justement d'autonomie. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil pour l'humain, c'est ce que je te disais au début, être relié, oser se connecter, être, c'est dans un équilibre de pouvoir traverser la vie avec des tumultes, bien évidemment, mais avec une acceptation, une sorte de d'harmonie globale qui est une force, une véritable force. Donc que ça soit pour les humains, nos animaux domestiques, c'est ça, c'est leur donner la possibilité de pouvoir vivre en sauvage. Alors ils ne seront jamais sauvages, mais peut-être qu'on peut s'en rapprocher, et nous et eux. Et je pense que c'est ça qu'il faut réussir à observer, à constater et à pouvoir s'offrir.
Il n'y a pas tellement une relation d'élevage finalement, c'est plutôt une relation de bon soin. Je prends soin du paysage, elles en prennent soin aussi, je prends soin d'elles, elles prennent soin de moi probablement aussi. Voilà ce que je peux dire sur nos relations. J'aime beaucoup l'idée aussi que le bélier ait intégré le troupeau, pour des questions aussi de... J'ai dû sortir le bélier du cheptel de brebis. Et donc j'aime beaucoup cette interaction de race et de voir comment justement il a trouvé une sorte de mère dans ce troupeau-là qui est la petite Belle. Et ça cohabite extrêmement bien aussi parce que je pense qu'il y a de l'espace, il y a une sagesse des espaces aussi. Et d'ailleurs très souvent quand j'arrive il y a le renard, donc il y a d'autres animaux qui se mêlent au troupeau. Les chevreuils, le renard, très souvent le renard, il est toujours là le matin j'arrive. Alors, il y a plusieurs renards, et là, en ce moment, pas mal de renardos. Et donc, je sens qu'ils coévoluent, au même titre que les oiseaux sont tout le temps, en ce moment, sur le dos des brebis. D'ailleurs, vous verrez, il y a plein de fientes d'oiseaux sur les brebis. Donc ça, c'est quand même assez amusant. La vie emmène la vie.
J'avais envie de peut-être terminer par la petite anecdote du veau qui s'est barré. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote et ce que ça t'a appris ?
Ah bah oui, moi je suis encore émerveillée. D'ailleurs, on en a parlé hier. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la conscience du paysage. Comment les animaux habitent le paysage, comment ils circulent, ça on en a un peu parlé, comment ils le consomment dans l'idée de se nourrir avec, comment ils en font un logis, une architecture qui va les protéger. Donc c'est toutes ces questions-là qui m'émerveillent. Et c'est vrai que j'ai perdu l'année dernière un petit veau qui s'est, en changeant le troupeau de prairies, le petit veau juste né d'un mois, tout jeune, est parti, est allé extrêmement, et donc s'est échappé véritablement dans le paysage, dans la forêt, et puis est allé à peu près à 5 km, donc a traversé le ruisseau, est allé dans un village voisin, et par la rencontre avec d'autres paysans, justement, j'ai compris qu'il est allé très très loin. Donc j'ai cherché longtemps, j'ai pas trouvé, j'ai eu très peur, car il était encore sous le ventre de sa mère, hein. Il est, etc. Enfin, la lactation, enfin, pas la lactation, mais enfin, bon, bref, il tétait encore. Et donc, je me suis dit, c'est foutu. Voilà, cette année, j'ai encore fait une connerie par ignorance, j'ai mal bougé mon troupeau. Et voilà que ce veau est parti, va probablement être mort en plein milieu de la forêt ou je ne sais où. Et donc, après 24 heures, le petit veau est rentré exactement là où il était parti. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui m'ont traversé. La première chose, c'est-à-dire que bien évidemment, la mère a dû appeler son petit veau et que les bruits la nuit vont très loin avec les rivières, l'eau, les collines. Il y a probablement un effet comme ça, écho, qui va extrêmement loin dans le paysage. Ça, c'est intéressant, c'est la première chose. La deuxième chose, je me suis dit, c'est extraordinaire d'imaginer un petit veau d'un mois qui a jalonné le paysage, mais qui l'a comme marqué. Et qui l'a marqué à tel point qu'il a réussi à revenir, peut-être, je me suis imaginé qu'il était revenu exactement par le même chemin. Hier, j'étais avec des cyclistes qui voyagent à 19. Et comme c'est un long, une longue, longue caravane, à chaque virage, il descend. Il y en a un qui a une grosse craie et qui fait au sol une grande flèche pour dire au reste de l'équipe, du troupeau, tournez à droite. On est passé par là, tournez à droite. J'ai trouvé ça génial. C'est les cairns en montagne, c'est la manière dont on marque le paysage.
Ils ne s'attendent pas forcément tous, ils sont libres d'aller avancer à leur rythme.
Voilà, et puis ils tournent parce qu'il y a cette flèche au sol, mais comme les montagnards marquent le paysage pour savoir comment, dans ce paysage complètement perdu, il n'y a pas forcément de signes distinctifs qui permettent de comprendre là où on doit tourner, etc. Ben là, c'est pareil, je me suis dit, mais comment ce petit veau a réussi à marquer. Alors, est-ce que c'est l'odeur? Je me suis demandé si c'était l'odorat, je me suis demandé si c'était ses bouses, etc. Mais en tout cas, il a réussi à marquer, à retrouver, ou alors il a une conscience extrêmement pointue et visuelle, telle qu'il a réussi à retrouver son chemin. Et donc ça m'a émerveillée, parce que tout le monde te dit, oui, la mère, le veau, retrouve toujours sa mère de très loin. Mais je crois que personne ici, dans le territoire, avait les paysans étaient eux-mêmes émerveillés, tellement il avait été loin et qu'il était extrêmement jeune. Et donc ça a montré, par l'expérience, cette capacité de liaison, justement.
C'était un aventurier, il a été biberonné à l'aventure, alors que s'il avait été en bâtiment tout petit, il aurait sûrement pas eu cette capacité à se repérer dans le paysage.
Ça, je ne sais pas. Il était très jeune, il y avait un mois, donc mais peut-être que sa mère lui a transmis effectivement une sorte de génétique de l'aventure.
Sacré Tarzan.
Voilà, Tarzan.
C'est un aventurier.
Il s'appelle Tarzan. Voilà, il va aller explorer un paysage voisin chez un éleveur voisin qui a des aubraques, quelques salers également. Mmh. Donc ça va être bien aussi d'apporter aussi Tarzan, son goût de l'aventure dans un autre élevage, ça aussi. Que ça se diffuse.
Génial. Et eh ben écoute, sur ces derniers mots de nomadisme entre deux élevages, en tout cas de diffusion, il est midi, on va aller planter des boutures de consoude dans ta haie fruitière.
Voilà, avec joie.
Merci Astrid.
Et qu'elle se diffuse elle aussi, à foison.
Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer et développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le Mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas experts, soyez vers de terre.